Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 26 octobre 1999 à Saint-Jean.
Je n'ai pas très bien compris, saisi, pourquoi, avec le je suis, la passion du concupiscible ou de l'irascible risque de prendre tout en moi. Si vous voulez bien m'éclairer. Oui. Vous voyez, regardez d'abord, quand je dis ceci, c'est très simple comme l'analyse de l'attribution, hein, pour comprendre que le jugement d'existence fondamental, ceci est, passe avant le jugement d'existence, je suis. C'est ça qu'il faut regarder en premier lieu. C'est vrai que par rapport à moi, comprenez bien, par rapport à moi, c'est-à-dire ma sensibilité, ma conscience que j'ai, je suis et plus que naturel à moi que ceci est. Je ne sais pas ce que vous avez dit en premier lieu, la conscience que vous avez eue en premier lieu. Cherchez pas, vous n'y retrouverez jamais ça. Est-ce que vous avez eu le point de vue conscience humaine en premier lieu, je suis ou ceci est? Vous ne savez pas, moi non plus. Je crois que personne ne peut le savoir. Je ne fais pas la philosophie dans mon berceau. Parce que quand j'étais dans le berceau, je ne faisais pas de philosophie. J'étais éveillé quant à l'instinct. Et c'est vrai, mon instinct s'est éveillé très vite, je crois, à l'affection de ma mère, à l'affection de tous ceux qui étaient autour de moi. Ça, ça s'est éveillé. Qu'est-ce qui s'est éveillé en premier lieu? Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus. Si vous vous rappelez, tant mieux. C'est encombrant. On fait la philosophie de notre vie actuelle. C'est ça qu'il faut se rappeler. On ne fait pas la philosophie du passé. Parce que ma philosophie du passé, elle reposerait sur un souvenir. Donc je ne fais pas la philosophie du passé. Je fais la philosophie de ce que je suis actuellement. Je suis. Ceci est. Et je regarde ces deux affirmations que je peux poser. Tout le monde peut poser ces deux affirmations. Tout le monde. Avec attention, en étant présent à ce que vous dites. Pas, je répète, non, non, ceci est. Je suis. L'avantage du je suis, c'est que je n'ai pas besoin de mon pouce, de mon doigt pour dire, hein, ça y est, je ferme les yeux, je suis. Et mon je suis est d'autant plus fort que je ferme les yeux. Ah, c'est curieux. Tandis qu'au contraire, si je me coupe la main, je ne peux plus dire ceci est. Et tout de suite, je pourrais faire, vous voyez, la description du ceci est et du je suis. C'est bon du reste à faire. Pour petit à petit arriver à comprendre que le ceci est a cet immense avantage que le ceci, c'est tout ce que vous voulez, même moi. Ceci, c'est cette table. Ceci, c'est mon stylo. Ceci, c'est mon pied. C'est ma tête. Ceci est. C'est mon voisin. Ceci est. C'est tout. Alors, vous voyez, je constate tout de suite que le ceci est au fond, en réalité, relatif à « et ». Ce qui est important, c'est « et ». C'est toujours le même. Et c'est chaque fois différent. Ça, vous pouvez tout de suite constater ça. Et en disant ça, vous commencez à comprendre ce que c'est l'analogie. Parce que vous voyez que c'est toujours le même « et ». Et chaque fois qu'il est attribué à ceci, il est différent. L'être à l'homme. L'être à la table. L'être à mon voisin. L'être. C'est toujours et. Chaque fois différent et toujours le même. Tandis que quand vous dites je suis, hein, vous ne pouvez pas dire à cette table, c'est je suis. Non. Non. C'est peut-être mon avoir. Mais ce n'est pas je suis. Mon exister n'est pas collé à ça. Là, vous voyez que dans le je suis, le je mange l'être. Hein. Le je avale l'être. Et c'est le je qui est stable. Hein. L'être est relatif. Un jeu. C'est ça que je veux dire, c'est que le jeu prend toute la place. Et le jeu, suis, c'est mon moi. Moi, je suis. Et moi, je suis. C'est mon moi. Alors, c'est assez facile de comprendre que seul dans l'affirmation ceci est, l'être apparaît comme transcendant. Il transcende le ceci, puisque tous les ceci, je peux les ajouter indéfiniment, sont absorbés par l'être. Alors vous voyez cette chose très curieuse, hein, c'est très curieux, mais c'est à constater ça. Dans l'affirmation ceci est, c'est l'être qui absorbe le ceci. Et le ceci est en réalité relatif à l'être. Tandis que quand je dis je suis, l'être est relatif à je. Je suis. C'est moi qui. Et quand je dis je travaille, je suis travaillant. Tiens. Je suis dormant. Tiens. Je suis aimant. Dans tous les verbes, vous trouvez je suis. Et c'est toujours le jeu, dans toutes ces activités, dans toutes ces manières d'être. Je suis riant. Je suis de bonne humeur ce matin. Alors tout le monde en profite. Autour de moi, c'est extraordinaire. Et que demain, je suis pleurant. Et tout le monde pleure avec moi. Alors pas du tout, hein. Quand ils sont en face de moi, ils pleurent, oui, mais dès qu'ils tournent le dos, ils sont tout à fait autre chose. C'est moi qui absorbe tout. Ça, je crois qu'on peut facilement le saisir. C'est intéressant, hein. Parce que vous avez d'un côté l'objectif dominant, c'est l'être. De l'autre côté, l'objectif dominant, c'est le jeu. Vous avez deux pôles. Un pôle subjectif, un pôle objectif. L'objectivité la plus grande, c'est lorsque je saisis l'être. Rien de plus objectif que ça. Parce que l'être de celui qui est en face de moi est irréductible à mon être. Je peux avec lui, être semblable. J'ai les yeux qui ont la même couleur. Ils ne sont pas les mêmes. Pour être sûr, je dis, ah oui, oui, c'est pour les cartes d'identité, yeux bleus, yeux noirs, dans la série, catégorie. En réalité, les yeux noirs sont propres à chacun. Il y a des yeux noirs qui me terrifient. Il y a des yeux noirs qui m'attirent. Oh, tiens, tiens, pourquoi ? C'est curieux, hein ? Pourquoi ces yeux noirs m'attirent alors que chez l'autre, ils me terrifient ? Il y a des yeux bleus qui m'attirent, c'est beau. Tu es tout ciel. Oh, tiens, extraordinaire. Merveilleux. Je suis de voir tes yeux bleus. Ah, comme ça, paysan, c'est beau, c'est beau. Il y a des yeux bleus, tiens, c'est la vase. Hein? oui, c'est curieux. Je ne m'attire pas du tout. C'est pas de volonté du tout dans ses yeux. J'ai l'impression qu'il laisse tout couler, tout couler. C'est curieux. Hein. Vous voyez, saisissez ça, parce que ça c'est la phénoménologie. Hein. Le vécu des yeux noirs. Je pourrais écrire un roman sur les yeux noirs. Hein. C'est évident. Je pourrais écrire un roman sur les yeux bleus. Il serait bien écrit, vous savez, oh, vous verrez les yeux bleus dans tous les coins. Je ne suis pas fait pour ça, alors je laisse passer. Ça me tente, de temps en temps, mais après tout. Ce serait pas si mal d'écrire. Mon exister est relatif à moi. L'exister n'est pas relatif à ceci. C'est curieux. Donc, si je veux savoir ce qu'est l'être, je ne regarde pas d'abord moi. Parce que, quand je me regarde en premier lieu, ma modalité de mon être passe avant l'être. Si je prends un langage précis, philosophique, je dirais le mode, moi, absorbe la ratio être. Il y a la raison d'être. Et puis il y a le mode, ma manière d'être, ma manière d'exister. Quand je dis je suis, ma manière d'exister absorbe la ratio indis. Quand je dis ceci est, la ratio indis absorbe le ceci. Ça, je peux très bien le saisir. Donc, si je veux saisir l'être en tant qu'être, si je veux vraiment regarder l'être, découvrir ce qu'il est, je ne peux pas m'arrêter à mon je suis. Si je m'arrête à mon je suis, je ramènerai l'être à ma manière d'exister. Et la manière d'exister du chat, la manière d'exister du crapaud, tout à fait étrangère à la mienne. La manière d'exister de mon voisin. Ah, il y a des similitudes, là. Tous les deux nous écrivons en même temps. C'est des similitudes. Mais on l'écrit. Mais on le pense différemment. Moi, je suis distrait. Mon voisin a l'air d'être très appliqué. C'est heureux de faire ça. C'est agréable pour le voisin. Quelquefois on fait l'inverse. Mon voisin il est distrait. Oh là 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 là. Il ne peut rien comprendre. Il ne comprend que ce qu'il touche, que ce qu'il mange. C'est ça, alors là il le comprend. Mais le reste, quand il n'y a pas à manger, quand il n'y a pas à toucher, il ne sait plus. Il est agarre. Tandis que moi je pige. J'arrive à piger. Oui. C'est très important de comprendre ça. Je comprends très bien qu'on peut s'arrêter là, on peut décrire ce « je suis » et ce « je moi ». Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas décrire mon « je suis » et « moi ». C'est de savoir ce qui est atteint dans le « ceci est » qui m'intéresse. Et ce qui est atteint dans le « je moi »,« je suis ». Ça, c'est primordial. Et je vois qu'en effet, ça fait deux types totalement différents. Toute la philosophie, toute l'histoire de la philosophie pourrait se ramener à ça. Aussi bien en Occident que dans l'Inde. Je ne sais pas moi qui dis, c'est Olivier Lacombe qui m'avait dit ça. Et lui connaissait parfaitement la philosophie de l'Inde. J'avais posé la question. Je lui ai dit, est-ce que je peux ramener ces deux philosophies ? Il dit oui. Ils le font différemment, mais c'est la même chose. Et ça, c'est intéressant. Ça fait que l'intelligence africaine, l'intelligence de l'Inde, l'intelligence européenne, par rapport à l'aspect fondamental, hein, ceci est, je suis, même exactement la même position. Ça s'y fera différemment, Et c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose au-delà de la diversité des paroles, au-delà de la diversité des langues, parce qu'on avait affirmé qu'il y avait des logiques différentes. Mais non, c'est la même logique. Mais certains s'arrêtent au cours. Mais c'est la logique, l'attribution. J'attribue être à ceci. J'attribue être à je. Tout le monde dans les propositions a la simplicité et la complexité. Et la simplicité et la complexité la plus fondamentale, la plus radicale, c'est celle-ci, ceci est, je suis. Vous ne pouvez pas trouver une diversité de jugements différente, plus différente que celle-ci de ceci, je suis. C'est pour ça que toute philosophie se ramène à ça. Le primat du je suis, le primat de ceci est. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce que la scolastique ne dit pas. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est premier dans la scolastique ? La théologie. La scolastique est née du berceau de la théologie. Elle n'est pas née de mon expérience. Tandis que mon expérience, ceci est, je suis. Alors vous voyez, apparemment, hein, apparemment, le « je suis » me paraît bien plus spirituel. Je suis un être pensant, un roseau pensant, comme c'est beau, ça. C'est extraordinaire d'avoir découvert un roseau pensant. Quand on est au bord de l'eau, qu'il y a un petit peu de vent, et qu'on voit tous les roseaux qui s'inclinent, comme les 24 vieillards de l'Apocalypse, qui s'inclinent devant le Créateur. C'est beau, ça, hein. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils font. Et moi qui les regarde, je sais, je dis c'est beau ça. Ils s'inclinent. C'est beau de voir ça. Vous savez, le vent comme ça sur les roseaux. Il y a un mouvement magnifique. C'est le mouvement des vagues. C'est magnifique. Ça fait penser tout de suite à l'esprit qui est sur les eaux. Les eaux bougent selon l'esprit, le souffle. Alors, il y a deux manières de bouger, il y a deux manières d'approfondir, ceci est, je suis. Et ça, c'est radical. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de plus radical que ça. Et ça, c'est intéressant de s'apercevoir de ça. Parce que je vois que tout se ramène à ça, radicalement. Et quand vous lisez une philosophie qui n'est pas réaliste, posez-vous toujours la question, quel est le fondement de cette philosophie ? Quel est son point de départ ? C'est ça qui m'intéresse. Quand vous lisez Platon, quel est le point de départ de Platon ? Quand vous lisez Aristote, quel est le point de départ d'Aristote ? Quand vous voyez Parménide, quel est le point de départ de Parménide ? Héraclite, quel est son point de départ ? Tant que vous n'avez pas posé cette question-là, vous ne comprenez pas ce philosophe. Et toute critique qu'on peut faire à une philosophie ou à tel livre qui expose, c'est de voir ça. Certains philosophes vont dire, mais non, au-dessus de l'être, il y a l'un. Platon. Aristote, juste après, ah, pas du tout. L'un est relatif à l'être. Oui, c'est vrai. On pourrait dire que c'est ça qui est premier. Et non pas le jugement d'existence, ceci et ceci. Je dis non. Parce que dans ce jugement d'existence, ceci est, il n'y a que l'être. L'être possible, ceci. L'être en acte, ceci est. C'est vrai. Au point de vue des déterminations, c'est la même chose. C'est radical, ceci est. Il n'y a qu'une seule détermination, ceci est. Res. En latin, res. Et en grec, c'est ansit. C'est eis esti. Eis esti. Ceci est. Ça, c'est intéressant. Est-ce que l'un est avant l'être? Pour tous les néoplatoniciens, l'un est avant l'être. C'est-à-dire que l'être est relatif à l'un. Alors, vous voyez, le langage ne me dit pas ça du tout. Ceci est un. Alors, vous pouvez dire, ceci un. Oui, vous ne dites pas ça. Ça, c'est déjà très évolué quand vous dites ceci un, avec un trait d'union. Mais même quand vous dites ceci un, vous devriez dire un ceci. Est-ce que l'un est avant l'être ou est-ce que l'un est après l'être? Et je comprends que c'est immédiatement après. Ces deux jugements, ceci et je suis, c'est ceci et un. Après l'être, c'est l'un. Pour Platon, avant l'être, c'est l'un. Comment ça se fait? Ah, est-ce que lorsque je dis je suis, est-ce que l'un n'est pas plus radical que le je suis? Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je suis, c'est moi. Ceci est un. Je suis un. Je suis arrivé à m'unifier, je suis un. Mon voisin pourra dire aussi, je suis un. Ah, dans l'unité, on est semblable. Tiens, l'un est donc plus radical que le je suis. Alors vous découvrez par là progressivement l'erreur fondamentale du platonisme, c'est qu'il commence par le je suis. Si je commence par le je suis, l'un est avant l'être. Si au contraire je commence par ceci et, l'être est avant l'un. Vous voyez, je vous dis ça pour que vous compreniez qu'il y a toute une élaboration énorme dans cette simple affirmation ceci et je suis. C'est très vrai. Et vous me direz, ah mais non, c'est pas comme ça la différence entre le platonisme et l'aristotélisme, c'est l'un et l'être, l'autre. Je dis oui, mais c'est second. Qu'est-ce qui est plus radical? Ceci est, je suis. Alors c'est ça que nous cherchons en philosophie. Hein. On cherche toujours ce qui est plus radical. Tant qu'on n'a pas touché ce qui est plus radical, on n'a pas touché la philosophie. Preuve de la sagesse, hein. C'est toujours, toujours ce qui est plus radical. La source. Pas au-dessus. Vous êtes à la source jaillissante quand vous saisissez justement ce qui est ultime. Qu'est-ce qui est ultime? Ceci est. Et qu'est-ce qui sera avant ceci est? Ah, il est nécessaire qu'il existe un être avant le ceci est. Mais voyez, je suis obligé de le donner avec toute une longue expression. Il est nécessaire qu'il existe un être avant le ceci est. Je ne dis pas, il existe évidemment un être premier, j'en ai l'évidence. Non, tu n'en as pas l'évidence. On voudrait bien en avoir l'évidence. Et alors, c'est le désir d'avoir l'évidence qui me fait tomber de dire « Ah, puisque j'affirme qu'il est l'être premier, mais oui, je l'affirme, il est, parce que je l'affirme, parce que j'en ai le désir. » Alors, j'ai une philosophie qui met le désir avant l'expérience. Le désir, c'est quoi? C'est mon expérience interne la plus radicale. Alors, je vois qu'en effet, il y aura toujours cette espèce de lutte entre l'expérience interne et l'expérience externe. Qu'est-ce qui est premier? Mon expérience interne ou l'expérience externe? Quand je regarde l'enfant qui gémit, hein, premier, en venant dans ce monde, l'enfant crie. Nous avons tous crié en venant dans ce monde. Donc notre cri est premier, notre expérience du ceci est. C'est sûr. Le gosse en venant au monde n'a pas dit « Ceci est maman. Hein? » Un petit génie qui dit ça. « Ceci est. Ah, » ah. Avant, je n'avais rien vu du tout. Je dis « Ceci est. » Non. En venant dans ce monde, première chose, on salue le monde en criant. Nous n'avons pas été très polis pour le monde. Hein? Nous avons crié. Le cri exprime le désir. S'il n'y avait pas de désir, il n'y aurait pas de cri. C'est pour ça que vous mettez la sucette. Et quand le gosse crie, la sucette. Après, c'est de dire, tais-toi. Alors après, il crie pour la sucette. Et le monde d'aujourd'hui crie pour la sucette. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, le point de départ, c'est le cri. Le cri vient de moi. C'est le désir. Ça exprime le désir. Quand j'ai tout ce qu'il faut, je ne crie pas. Je mange, je bois, je dors. Le désir exprime ma pauvreté. Le désir exprimé par le cri exprime ma pauvreté. En venant dans ce monde, je crie. Il n'y a que Jésus qui n'a pas crié en venant dans ce monde. Parce qu'il avait Marie, il avait le Père. Il n'a pas crié. C'est la grosse différence. Vous voyez, pourquoi nous commençons par le ceci est et non pas le je suis. Et faites ça. Toujours essayer de regarder ce qui est premier. Est-ce que c'est le bien? On pourrait dire c'est le désir, ça doit être le bien. Ah, le bien est premier pour mon appétit, pour ma volonté, c'est vrai. Pour mes passions, c'est vrai. Mais mon intelligence va apparaître à travers cette affectivité, à travers le cri. Vous voyez? La sucette, c'est ramener le gosse à ceci est. Ceci est agréable. Vous voyez, le monde apparaît comme étranger. La sucette repermet l'immanence. Et l'homme, quand il est dans l'immanence parfaite, il ne crie plus. C'est sa sucette. Extraordinaire, ça. Il crée son monde à partir d'un goût agréable. Quelque chose est en code naturalité avec moi. Agréable. Et c'est l'immanence affective. Et je n'en sors plus, c'est ça qui est terrible. Je ne peux plus en sortir. Une fois que j'ai commencé à la sucette, je demande à toute chose, est-ce que tu es une sucette pour moi? Si tu es une sucette pour moi, c'est magnifique. Oh, tu es intelligent, tu m'as compris. C'est ça que je veux. L'intelligence naît à partir de ça. Et l'intelligence, elle, veut sortir de l'immanence. Ceci est. Bon, je n'insiste pas plus. Avançons. Vous voyez, ceci est apaise. Mon intelligence, quand elle peut dire ceci est, se repose. Quand je dis je suis, je me repose aussi, mais dans une affectivité. Pas dans mon intelligence, dans une affectivité. C'est mon bien, c'est moi. Je me repose en moi. Qu'est-ce qui est premier quand vous dites moi? Quand vous dites je suis, qu'est-ce qui est premier? C'est votre affectivité, c'est votre immanence, c'est ce que vous êtes. Ce n'est pas du tout l'être. Alors on cherche éperdument l'autre, Lévinas. On cherche éperdument l'autre. Parce que l'autre, c'est pas premièrement une sucette. Non, 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 non. L'autre, c'est premièrement celui qui m'arrête. C'est sûr. celui qui est autre que moi, qui me fait comprendre ma limite. Alors, comprenons bien que si je commence par ceci et mon intelligence saisit une réalité, quelque chose qui existe, quelque chose qui est autre que moi, tout de suite, autre que moi. Et c'est contemporain de l'affirmation « je suis ». Or, cet autre que moi, il y a quelque chose que je connais, je l'atteins, puisque je dis ceci, mais il y a quelque chose aussi que je ne connais pas. En tant que l'autre est ma limite, il est étranger à moi. Et c'est pour ça que si vite, vous voyez, on le rejette. On dit à 4 ans, paraît-il, psychologiquement, c'est l'âge de la négation. On rejette. Tu ne me comprends pas, tu es autre que moi. Comment veux-tu que tu me comprennes ? Impossible. Tu es autre que moi. Si tu étais semblable, moi je te comprendrais. Mais tu es autre que moi. Alors je te rejette. Alors voyez, autre que moi peut susciter le rejet, peut susciter l'interrogation. Ah ça, je crois que c'est très important. De voir en nous comment naît l'interrogation. Et comment naît en nous le rejet. Parce que c'est cela qui est capital pour nous. Dans l'interrogation, vous ne rejetez rien. Au contraire, vous vous laissez attirer. Quand vous découvrez que l'autre est autre, qui n'est pas vous, vous pouvez dire, mais qui es-tu ? Vous interrogez. On interroge quand on est en face de quelque chose qui nous dépasse. Donc l'autre, la première expérience du dépassement, c'est l'autre. Il est autre que moi. Il me dépasse. C'est la première expérience. Mais vous pouvez très bien, si votre affectivité est très grande et que ce n'est plus ceci est, mais c'est je suis, l'autre, ah, il est le rival. Et je m'en aperçois tout de suite. Hein. Mais dans une famille, le petit dernier, on a tous été un moment le dernier. Curieux, hein. tous. On a tous été à un moment donné le dernier. On est peut-être resté toujours le dernier, si on est le dernier de la famille. Mais si on n'est pas le dernier de la famille, il y en a un autre qui a poussé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Chose étonnante. Hein. Tout le monde a regardé le dernier, alors qu'avant c'était moi. Il ne m'a pas demandé la permission. Il est passé devant moi. Ah, vraiment, hein. La politesse en essence est fameuse. On crie par rapport au monde, puis on prend la place du dernier. Et tout le monde le regarde, sans avoir du tout l'œil sur moi. Un œil complaisant, mon pauvre petit, tu n'es plus le dernier maintenant. Tu es plus grand que lui, tu as un an de plus que lui, tu as 2 ans de plus que lui, tu es plus intelligent que lui. Alors regarde ta priorité. Tu es l'aîné par rapport à lui. On ne nous dit jamais ça. On ne nous a jamais dit ça. On a regardé l'autre. On l'a aimé. Tout le monde a pris dans ses bras. Puis nous, on est resté là. Tout triste. Alors, vous voyez, c'est évident tout ça. On porte tout ça. Alors, le premier refus, c'est ça, le premier. On nous a refusé. Du moins, on a cru qu'on nous refusait. On ne nous a pas refusé du tout. Attendons, attendons que l'événement soit passé, que l'admiration ne soit plus là. Puis on comparera. Ah, quand on compare, au moins on me regarde, c'est déjà beaucoup. Ah oui, je fais partie du spectacle. On me regarde. Peut-être quand on fera, peut-être que le plus petit, il ressemble plus à sa maman, celui-là, que l'autre. Alors on dira ça. On encaissera ça, on ne comprendra rien du tout, vous n'avez rien. On verra. Mais la comparaison, qui n'est plus le refus. On est réintroduit par la comparaison. C'est très bien d'être réintroduit par la comparaison, mais ce n'est pas très chic. Hein, parce que j'existe en fonction d'autres. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me regarde moi. C'est évident. Je suis. Et dans le « je suis », vous savez, quand Descartes dit « je suis », il veut dire « allez les théologiens, hein, c'est moi ». C'est la revendication du « moi » en face des théologiens. Il y a ça chez Descartes, de façon très curieuse, très polie. Et au XVIIe siècle, donc c'est poli. Il serait aujourd'hui, il serait à la place de, ça, de Sartre, il dirait « je te néantise, théologie, je te néantise pour que moi je passe ». Et c'est ça, parce que c'est plus le langage du grand siècle, hein. On a un autre langage aujourd'hui. C'est la rencontre de Sartre et de Descartes. Au purgatoire. Hein. La rencontre. Cette rencontre des deux. C'est très curieux de voir tout ça. C'est très intéressant. Voir l'aspect génétique de l'intelligence. Parce qu'au fond, cet aspect génétique de l'intelligence, il peut être découvert. L'aspect génétique de notre affectivité, non, qui est toujours obscur. Alors on peut inventer tout ce qu'on veut. Et c'est toujours à partir de l'intelligence. La psychanalyse serait intéressante du côté de l'intelligence, pas du côté de l'affectivité. Or, elle est du côté de l'affectivité. Parce que l'affectivité ne peut pas. Oui, l'affectivité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On est dans un monde affectif. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dès qu'il y a bifurcation droite et gauche, on a inventé ce rond. Toute droite, on tourne autour. Première fois, on passe nécessairement devant. On refait une seconde fois et on voit. L'affectivité, elle nous conduit au rond. C'est-à-dire sur nous. Parce que c'est nous le centre. Quand on se regarde, c'est toujours. Tandis que l'intelligence, elle joue toujours entre l'affirmation et la négation. Tout le temps. Et à des moments, la négation passe devant. Alors quand la négation passe devant, on retourne à l'affectivité. C'est moi. C'est moi qui nie. Et je suis grand parce que je nie. En niant, je m'affirme. Très curieux. En niant, je m'affirme. Et rien n'est plus affirmatif que de nier. Et là, je me retourne moi-même. Et dès que quand je suis dans le « je suis », donc de moi-même, l'affectivité passe toujours avant. Nous sommes dans un monde affectif. Parce qu'il y a le primat de la négation. Donc, nous sommes dans un monde de relations, de comparaison, de jalousie, de haine, de jouissance, d'affectivité. Alors, si mon intelligence reste une intelligence qui cherche, sans le savoir, hein, à quel moment ai-je pris conscience que je cherche la vérité? À quel moment? J'ai posé la question à des psychanalystes que je connaissais bien. Je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresse de chercher quel moment on a cherché la vérité? Là, il m'a souri, il m'a dit, je crois que c'est impossible à savoir. Oui, la recherche de la vérité, elle est née dans le brouillard. Les pays qui sont en dessous du niveau de la mer, les Pays-Bas, tout dit dans le brouillard. Alors, au point de vue artistique, c'est merveilleux. Parce que ça a une espèce de finesse étonnante. Ça naît dans le brouillard. Au point de vue de ma connaissance, c'est plus ennuyeux. Il faut toujours un fond de brouillard. À quel moment est née ma recherche de la vérité? Vous avez pris conscience. Ça met du temps, hein. C'est sûr, je ne peux pas le dire. Je sais que maintenant, je comprends que mon intelligence a soif de vérité et qu'elle n'est apaisée quand elle découvre la vérité. Et que c'est ça, cet appétit d'intelligence qui s'exprime par l'interrogation. Oui, c'est le bout du nez de l'intelligence qui interroge, qui lève la tête. Interrogation pure. À la place d'être en face d'un obstacle, je dis qu'est-ce? C'est positif. L'obstacle, ça reste négatif. C'est le refoulement. Alors, qu'est-ce qui me fait sauver du refoulement? L'interrogation. Quelqu'un qui interroge, et ça c'est son auto-éducation, notre propre auto-éducation, c'est ça. Parce que le refoulement m'attriste. Il me replie sur moi-même. C'est pas drôle. Je me connais. Je suis pas drôle à certaines heures. Je pourrais pas cohabiter avec moi. C'est ce que je m'ennuierais. Cohabiter avec moi. Alors j'essaie de sortir de moi. Quelle est la grande sortie de soi? L'interrogation. Ça a mis du temps, hein. Le père de l'interrogation, Socrate. Et c'est pour ça que les Grecs l'aimaient tant. Et voyez, c'est très curieux, parce que ce père de l'interrogation, Socrate, ça a été du côté affectif, du côté moral. Que suis-je? Qu'est-ce qui donne à mes activités leur caractère humain? Des activités d'homme et des activités humaines. Le passage de l'activité d'homme à l'activité humaine. Un passage énorme, ça. L'activité humaine, elle est qualifiée comme une activité volontaire, propre à moi. L'activité d'homme, elle peut être tout simplement l'instinct, c'est ce qui vient de moi. Le fricare barba. Comme disaient les anciens. C'est les Latins qui disent ça, ce n'est pas les Grecs. Les Grecs donnent fricare barbam. Tandis que les Latins, oui. Mais ses cheveux. C'est curieux. C'est pour ça qu'on laisse pousser ses cheveux aujourd'hui. Parce que bon, le fricare barbam vaut mieux, ça. Laisse pousser la barbe. On tire dessus, tu vois. Et ça pousse. L'interrogation, elle naît de l'appétit. On a soif. On interroge. Alors, l'interrogation, quand elle est suffisamment forte, elle me permet de dépasser le refoulement. C'est énorme, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dépasser le refoulement. Parce que le refoulement, petit à petit, ça m'encombre, ça m'encombre. Et dans le refoulement, c'est encore moi. C'est moi qui deviens un mur pour moi-même. J'ai la clé de ma prison, je me ferme et j'oublie la clé. C'est quand même très curieux, ça. Il faut qu'un autre soit là pour vous redonner la clé. Vous faites à ce moment-là une analyse psychanalytique. Pour découvrir les clés. Vous aviez perdu. Et vous étiez mis dans ce refoulement. Ah, au point de vue philosophique, J'ai essayé de comprendre la cause du refoulement. Et si je saisis la cause du refoulement, je pourrai moi-même redécouvrir la clé. Et ça ira bien plus vite. Parce que je sais, ce sont ces clés que je cherche. Quand j'interroge, je découvre mon autonomie. Ah, on vous l'a jamais dit ça, hein? Quand j'interroge, je redécouvre mon autonomie. Voyez, quand vous passez un examen, qui a l'autonomie? Le professeur qui vous fait passer ou l'élève qui subit l'examen? Est-ce que vous avez une expérience de votre autonomie majeure quand vous passez un examen? Hein? À ce moment-là, vous êtes tout petit. Hein? Première règle d'humilité. Mais subi. Hein? Donc, ce n'est pas la véritable humilité. C'est l'esclave. Hein? On m'interroge. De quel droit m'interroge-t-il? Quand même. Il m'interroge. Quand vous interrogez, vous manifestez votre autonomie. Et c'est ça qui vous met en furie devant le maître qui vous interroge. Avant de répondre, on a envie de dire, mais de quel droit tu m'interroges? Est-ce que tu m'interroges par amour pour moi? Ou est-ce que tu m'interroges pour m'humilier, montrer que je ne sais pas répondre? Et l'interrogation est enveloppée presque toujours d'un climat affectif. Parce que c'est l'affectivité, hein, c'est le désir de mon intelligence quand j'interroge. Quand j'interroge, je veux aller plus loin. La vraie interrogation, c'est ça. Et c'est pour ça que l'interrogation me libère du complexe. Je subis un cours. Il y a des tas de choses que je ne comprends pas. Si on me dit interroger, ah, au moins, les choses que je ne comprends pas me donneront la matière à interroger. Et je montrerai que je ne suis pas si bête. Je peux interroger. Chaque fois que vous interrogez, vous manifestez votre intelligence. Et vous libérez votre intelligence. C'est pour ça que je vous dis, interrogez. Interrogez de façon intelligente. Hein. L'éveil de l'intelligence. Interrogez. C'est très grand, la manière dont Socrate interroge. Et c'est curieux, c'est très rare qu'Aristote se compare. Pour une fois, il se compare à Platon, en disant « ma philosophie est plus proche de celle de Socrate que celle de Platon ». Et Aristote n'est pas quelqu'un qui vit de comparaison, non. C'est très vite fait, il s'en sert. Mais pas de comparaison. Là, oui, parce que Platon était son maître. Donc, il l'a vénéré, il l'a admiré. Et à un moment donné, Aristote a découvert qu'il avait un appétit de vérité plus grand que celui de Platon. Et à ce moment-là, pour ne pas être orgueilleux, parce qu'il est humble, il cherche la vérité, il s'appuie sur Socrate. Je suis plus proche de Socrate. J'interroge. Le passage de Socrate à Aristote, c'est le passage de l'interrogation au niveau moral à un niveau spéculatif. Très curieux. Et ça, c'est très intéressant. C'est une manière d'entrer dans Aristote en amitié avec Socrate. Vraiment en amitié avec Socrate. Et il cherche, il interroge. Et Aristote a réfléchi critiquement sur l'interrogation. Et il a découvert qu'il y avait quatre interrogations fondamentales et cinq en second. Que très souvent, on vit de cinq interrogations. C'est beau, la philosophie d'Aristote est la philosophie de l'interrogation. parce qu'il a fait autre chose, alors on ne le nomme plus. Mais c'est le point de départ. Et nous devons, nous, dans un monde qui est mené par le néoplatonisme, dans un monde qui est mené par la phénoménologie, ça n'interroge pas. Platon interroge d'une manière artificielle et factice, mais admirablement. Les dialogues de Platon, c'est admirable comme interrogation. On croit que c'est vrai. Quand on lit ça, c'est toujours très bien fait. Mais c'est Platon qui se dédouble. Je peux très bien m'interroger moi-même, comme je me regarde dans la glace. Je sais très bien que c'est la glace, c'est que c'est moi encore. Quand j'interroge à la manière de Platon, c'est moi qui me dédouble. Et j'interroge. J'interroge l'imbécile qui est en face de moi. Et c'est moi. Et je le sais. Et je joue le rôle d'imbécile pour que laisser la place à l'autre. Interroge. C'est ce qu'on fait quand on interroge de cette manière-là. Aristote comprend qu'il y a deux interrogations fondamentales. Le tiesti et le pos. Le tiesti et le pos. Tiesti, pourquoi ? Qu'est-ce ? Et le pos, comment ? Alors ça, c'est très très important. Vous voyez, on est au moment de la croissance de mon intelligence, de l'éveil de mon intelligence. Tout de suite, il y a une bifurcation. Tout de suite. Ou je vais du côté du tiesti, si je cherche la vérité. Je vais du côté du comment, si je cherche l'efficacité. C'est radical. Celui qui cherche l'efficacité met entre parenthèses toutes les questions du tiesti, du pourquoi. Et il regarde que le pose, le comment. Oui. Alors ça, nous devons tous redécouvrir ça. Parce qu'on est tous plus ou moins des petits-fils d'Auguste Comte. Des arrière-petits-fils, des arrière-arrière-petits-fils. Mais on est tous un peu. Auguste Comte a dit naïvement cette division du pourquoi et du comment. Et là, il a dit, l'homme intelligent, arrivé à sa maturité, pose le comment. L'enfant pose le pourquoi. Vous voyez, la psychologie. Ça, c'est psychologique. C'est très vrai. Dans votre vie, hein, faites le soir comme examen de conscience philosophique. Hein. Petit examen philosophique. Combien de comment vous avez posé ? Combien de pourquoi vous avez posé ? Hein ? Là, dans la balance, vous verrez, oh, je suis encore un positiviste. J'ai posé comme question que des comment. Ah, ça commence un tout petit peu à naître. Quand j'écoute le cours, je pose le comment, le pourquoi. Mais dès que je quitte le cours, immédiatement, mais oui, c'est évident. Comment se servir d'un tournevis ? Comment se servir de telles choses ? Des cuillères, des fourchettes, du feu. Comment s'en servir ? Comment faire un gâteau ? Comment cuire la viande du mouton ? Comment ? Et le cochon ? C'est encore autre chose. On vit tout le temps dans le comment. Nous sommes un monde du comment. Et c'est ça qui nous intéresse, le pourquoi. De temps en temps, la philosophie, c'est de découvrir le pourquoi. Tiesti. Vous voyez, il y a le dépassement du je suis, le dépassement du refoulement, deux dépassements. Et puis, j'interroge. Et quand j'interroge, je suis autonome. C'est mon autonomie qui apparaît comme ça. Le premier moment de mon autonomie, c'est ça. Celui qui prétend être autonome et qui n'interroge jamais, c'est faux. C'est faux. Il s'est revêtu du manteau de l'homme libre. Mais il n'est pas libre du tout. Il fait semblant. Réfléchissez sur l'interrogation. Et dans l'interrogation, la qualification du comment et la qualification du pourquoi. Et montrer que l'intelligence, comme intelligence, se découvre lorsqu'elle interroge pourquoi. Et la raison, comme raison, se découvre dans le comment.